Marc chapitre 15, Pentecôte, c'est souvent l'occasion de parler du Saint-Esprit. Et on pourrait le faire ça ce matin, mais en fait, quand l'apôtre Pierre, il a prêché son message, lui, de Pentecôte, il n'a pas tant parlé du Saint-Esprit, il a surtout parlé de Jésus-Christ, de sa mort, de la croix. Et il semble que le rôle principal du Saint-Esprit, c'est de diriger nos regards vers la croix, vers Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on aimerait faire donc ce matin. On va parler de la mort de Christ qui est au cœur de toutes les fêtes chrétiennes, que ce soit Noël ou Pâques ou Pentecôte. Donc nous voici en Marc chapitre 15 et nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'à verset 39. Marc 15, 6. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur demander. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? » Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient, se secouaient la tête en disant, « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. » Afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écriera d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Voilà donc le récit de la mort de Jésus. Mais vous savez, Jésus n'était ni la première personne, ni la dernière personne à être crucifié ou à mourir sur une croix. C'est malheureux de le dire, mais la crucifixion, c'était monnaie courante chez les Romains. Ce jour-là, déjà, ils étaient trois. Jésus n'était pas seul. Et puis même à une autre occasion, les Romains, ils avaient aligné 6000 personnes qu'ils avaient crucifiées à la fois. Donc, un de plus, ça ne va pas changer le monde.
Si. Mais si.
Surtout, regardez ce centenier. Le dernier verset que nous avons lu dit, voyons la manière que Jésus expira, il dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ce centenier romain, il avait certainement vu ou même dirigé de nombreuses exécutions. C'est un homme, il n'avait pas le ventre fragile. Alors si un centenier romain est interpellé, bouleversé par une crucifixion, c'est qu'il y a quelque chose. Ceci dit, il y a toujours eu des personnes qui sont mortes en martyr pour une cause plus ou moins noble. Pas mal de chefs de religion ont terminé les jours morts en martyr. Il y a toujours eu des Jeanne d'Arc, des Che Guevara, des personnes qui ont mené une cause et puis qui sont morts à la fin parce que ça n'a pas plu aux autorités en place. De nos jours, on aime ce genre de personnes, le côté un peu rebelle, le côté anticonformiste, anti-autorité. Mais ce n'est pas pourtant qu'on va les adorer ou qu'on va tout quitter pour le suivre. Et pourtant, c'est la conclusion que les premiers chrétiens, que nombreuses personnes autour de la croix ont fait par rapport à cette mort-là, à cette crucifixion-là. Pourquoi ? Pourquoi une réaction comme celle du centenier ? Eh bien, c'est parce que c'était une mort pas comme les autres. C'est ce que nous allons voir ce matin. Je pense que Marc nous invite à voir notamment, tout d'abord, le criminel innocent. Ensuite, le roi impuissant. Et enfin, le fils abandonné. Nous voyons le criminel innocent, le roi impuissant et le fils abandonné. Tout d'abord, le criminel innocent. Dans les premiers versets, nous lisons, on trouve Jésus dans ce cadre de prisonnier, de criminel. Marc est en train d'expliquer à quel point il était mis au nombre des malfaiteurs, comme il cite ce verset. Et effectivement, Jésus était vraiment mis au nombre des malfaiteurs. Et bien sûr, il va être crucifié entre deux brigands, entre deux malfaiteurs. Mais même avant d'être mis entre les deux brigands, il va être mis à côté d'un autre criminel, un autre malfaiteur, notamment Barabbas. Et Barabbas, ça a dû faire réfléchir parce que les quatre évangiles font mention de cet homme, Barabbas. Alors Barabbas, tout le monde, toute la ville, toute la population sait que Barabbas, c'est un criminel coupable, meurtre lors d'une émeute, une sédition. Alors Barabbas, il n'est pas un héros national pour le peuple, c'est un terroriste, personne ne veut de lui vraiment. Donc vous avez là, d'un côté, un homme que tout le monde sait être coupable. Et puis juste à côté, vous avez un homme que tout le monde sait être innocent. Pilate sait qu'il est innocent. Le centenier, lui, il sait qu'il est innocent. D'ailleurs, en Luc, cette dernière phrase qu'il va émettre en voyant Jésus mourir, il va dire, assurément, cet homme était juste, cet homme était innocent. Donc le centenier le sait, Pilate le sait, tout le monde sait que Jésus est innocent, que c'est plutôt par envie, par jalousie, que les gens veulent le crucifier. Donc d'un côté, un homme que tout le monde sait être coupable, d'un autre côté, un homme dont tout le monde sait être innocent. Et l'innocent, il va être traité de criminel, et le criminel, il va être traité d'innocent. Alors, tout ça, ça doit nous faire réfléchir, tout ça c'est frappant. Le criminel traité d'innocent et l'innocent traité de criminel. Récemment, j'ai vu un débat entre un chrétien et un athée. Et l'athée disait, ben, les évangiles, l'évangile de Marc entre autres, il s'agit de légendes, c'est sûr, il s'agit de légendes. Et l'argument, il avançait pour le montrer, c'est que, vous voyez, dans les évangiles, il y a trop de coïncidences. On voit bien que Marc est en train d'inventer les choses pour donner force littéraire, mais il y a trop de coïncidences. Et l'exemple qu'il a pris, c'était notamment Jésus et Barabbas. Il dit là, c'est trop fort pour être vrai. Parce que vous savez, que signifie le nom Barabbas ? Je pense que vous ne devez pas même maîtriser beaucoup l'hébreu pour connaître ce que signifie le nom Barabbas. Alors, bar en hébreu, bar mitzvah, Simon, bar Jonas, bar c'est fils. D'accord ? Donc on connaît maintenant bar fils. Bar Abbas. Abba, bar Abbas ou Abba, 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 Abba père. Donc voilà un homme qui s'appelle fils du père. Donc ils ont devant eux un homme Et quand Pilate demande lequel voulez-vous que je relâche, certainement ils ne s'entendent pas de dire, mais ils sont en train de dire relâchez le fils du Père. Relâchez le fils du Père. Et cet athée disait, mais là, le fils du Père, il est à côté d'un autre fils du Père. Jésus, tout le monde sait qu'il est le fils du Père. Et finalement, la foule a devant eux deux hommes, deux fils du Père, ils vont devoir choisir. Bien sûr, il disait, c'est inventé, c'est trop fort, il y a trop de coïncidences, c'est trop symbolique pour que ça soit vrai. Nous disons que déjà, il n'y a pas de problème, Barabbas c'était un nom de l'époque, il donnait des noms symboliques à l'époque, Barabbas ce n'était pas un problème. Même, on était chez Madame Prucope l'autre jour, elle nous a montré un article dans le Figaro sur Jésus, et l'auteur, j'ai remarqué ça juste en lisant, l'auteur c'était Jean-Christian Petit-Fils. Alors c'était quand même fort, un article sur Jésus écrit par Christian Petit-Fils. Mais ce n'est pas pour autant que cet homme n'existe pas avec un tel nom. Petit-Fils, c'est un drôle de nom, mais c'est son nom. Barabbas, c'était son nom, fils du Père. Et quand on est devant ce Barabbas et ce Jésus, effectivement, Marc et les autres évangélistes, Matthieu, Luc et Jean, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler de cette histoire parce que oui, c'est trop fort, il y a trop de coïncidences. Et pour nous, c'est la preuve que Dieu est derrière tout ça, en train de diriger, en train d'accomplir ce qu'il veut. Oui, la foule avait devant eux deux fils du Père et ils sont en train de crier « Relâchez le fils du Père ». Ils ne doivent pas savoir ce qu'ils disent, mais toute la force, toute l'ironie de la situation est là. Ce que Marc nous invite à voir dans cette croix, ce qui distingue cette crucifixion, cette condamnation de tous les autres. Les autorités, dans leur jalousie, ils veulent sauver le coupable et condamner l'innocent. Eh bien, c'est ça. Dieu, dans son amour, c'est ce qu'il veut faire. Il veut sauver le coupable et condamner l'innocent. Il veut nous secourir, nous qui sommes appelés fils du malin, fils du diable, c'était notre Père et il veut nous sauver. Parfois on aime bien imaginer ce que Barabbas est devenu, mais la Bible n'en dit rien. Et quelque part la question n'est pas ce que Barabbas est devenu, mais ce que nous allons devenir. Parce qu'une fois qu'on a compris que, en fait, c'était nous les coupables, et c'est Jésus l'innocent qui a été traité criminel à notre place, là, c'est ça qui nous transforme, qui nous touche. Effectivement, on a du mal à imaginer Barabbas sortir de là et continuer une vie de terroriste. Ça aurait été la bassesse la plus extrême. Mais la Bible ne parle pas de lui. Pour diriger l'attention vers nous, qu'est-ce que nous allons faire de ce criminel qui a pris notre place? Donc un aspect si frappant que le centenier a pu constater, cet homme si juste a été condamné. Ça c'est une mort, pas comme les autres. Et ensuite, en deuxième lieu, un autre aspect très frappant dans tout ça, c'est d'y voir le roi impuissant. Après que la verdict est donné, la condamnation tombe sur l'innocent et que le coupable est relâché. Maintenant, Jésus est livré pour être crucifié à partir du verset 16. Et dans les versets 16 jusqu'à 32, nous avons une description du traitement royal que Jésus a reçu. Et l'insistance est tellement forte de Marc sur ce côté royal que Jésus va recevoir. Mais regardez, il y a la pourpre, il y a un manteau de pourpre qu'on va mettre sur lui, il y a une couronne qu'on va mettre sur lui, il y a les génuflexions, il y a « Salut, roi des Juifs », il y a l'inscription qui est au-dessus de sa tête, « Le roi des Juifs ». En verset 32, c'est ce que les passants crient, que le Christ, le roi d'Israël, descende. Voilà le roi. Pendant tout cet évangile, Marc a pris soin de montrer que Jésus, il est le roi, le vrai roi, il est puissant, il est capable. Il est le roi à suivre. Et maintenant, au moment où tout le monde va pouvoir l'acclamer en tant que roi, ils le font, mais de la manière la plus sarcastique, la plus ironique, la plus méprisante. On chante un cantique qui dit « Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne. » Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne. Et c'est ce qu'on voit ici. Il a pour trône la croix.
pour couronne, la couronne d'épines.
Pour intendant et cortège, Simon de Cyrène, qui a porté sa croix. Pour échanson, un bourreau qui lui apporte du vin mêlé de myrrhe. Pour acclamation, des moqueries. Voilà le roi le plus impuissant du monde. Et c'est ça qui est si frappant. Le roi le plus impuissant du monde.
En allant en Haïti, notre équipe, l'équipe qui est partie en mission il y a quelques années maintenant, en Haïti, nous sommes passés par Londres. Et on avait une escale un peu longue, donc l'idée c'était de visiter un peu la ville. Donc on s'est dirigé vers le British Museum où il y a les plus anciens manuscrits de la Bible. Et quand, si vous voulez aller au British Museum, il faut prendre le métro et l'arrêt, vous descendez, c'est une grande gare, un peu comme la gare de Montparnasse à Paris, et une grande gare à Londres, et le nom de l'arrêt, c'était moi qui guidais, hein, donc je repérais, je regardais, je regarde, le nom de l'arrêt c'est, en anglais, King's Cross, donc la croix du roi. J'ai un commentaire de l'évangile de Marc qui s'intitule de la même manière, c'est pour ça que j'en parle, la croix du roi, là, King's Cross. Normalement, on ne met pas ces deux mots ensemble. Le roi et sa croix. Aujourd'hui, on se permet de le faire quand on a des siècles de christianisme derrière nous, mais normalement, on ne met pas ces deux mots ensemble. Éventuellement, le roi et le sceptre, ou le roi et la couronne, ou le roi et la trône, mais jamais le roi et la croix. Mais Jésus les a mis ensemble dans sa vie et dans sa mort, il les a mis ensemble, et c'est une bonne manière de résumer sa vie, sa mission, son ministère. Nous constatons que c'est sur la croix qu'il est devenu effectivement le plus grand des rois. Ce roi impuissant est devenu le plus grand des rois. Je me mets à la place de ce centenier, si on peut regarder cette mort, cette croix, à travers son regard. Toute la philosophie romaine, tout l'empire romain était bâti sur la force, la puissance, la victoire. Et ce jour-là, ce centenier se trouve à une autre force, une autre philosophie, qui pour lui était si bouleversant. Ce roi, il ne cherche pas à se sauver. On s'est moqué de lui, ainsi il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Mais encore à travers cette moquerie, nous voyons toute la force, toute la beauté de l'évangile. Justement, il a sauvé les autres et il ne s'est pas sauvé lui-même. C'était là sa force, c'était là sa grandeur, sa gloire de roi. Il n'a pas cherché à se sauver lui-même pour sauver les autres. Ne voulez-vous pas un roi comme ça? Ne voulez-vous pas une stratégie de conquête comme ça dans notre société, dans notre église, dans nos rapports les uns les autres, où les gens cherchent plutôt à sauver les autres au lieu de se sauver soi-même, à s'abaisser au lieu d'écraser les autres? N'est-ce pas finalement la puissance, la gloire? Donc ce roi impuissant, finalement si frappant, qu'il a choisi cette voie-là, et puis il nous invite à le suivre sur ce chemin de la croix, qui cherche, à mettre les autres devant. Voilà ce que ce centenier a pu voir dans cette mort. Tout d'abord le criminel innocent, très frappant, et ensuite le roi impuissant. Et enfin, nous passons en troisième point, il y a vu le fils abandonné. Dans les versets suivants, à partir de verset 33, après ce traitement royal, maintenant nous avons les ténèbres sur toute la terre. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est très fort ça, personne n'aime être tout seul dans les ténèbres. Chez moi, ça commence à s'arranger, mais encore aujourd'hui, si j'oublie de brancher la veilleuse pendant la nuit, j'ai droit, c'est sûr, à des pleurs pendant la nuit. Papa, papa. C'est possible que ça soit parfois maman, maman, mais il me semble que c'est papa, papa. Il n'y a plus de lumière, alors il faut mettre la lumière. Et si on dit qu'il y a des ténèbres sur toute la terre, dans tout le pays, selon d'autres évangiles. Donc, il faut écarter la théorie d'un éclipse régional. Un éclipse, ça ne dure pas 3 heures. Et ce n'est pas sur toute la Terre. Et puis, c'est tout un thème dans la Bible, dans les prophètes de l'Ancien Testament, notamment les ténèbres en plein jour sont signe de la désapprobation divine, du jugement. Même aujourd'hui, jusqu'à récemment, une des pires des punitions à infliger aux prisonniers, c'était de les mettre dans le cachot, en isolement, le cachot, dans le noir, pendant des heures ou pendant des jours. Le pire des punitions. Bien souvent, on préfère une douleur physique qu'une torture psychologique. Mais voilà ce que Christ va vivre. Et puis ce cri, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans le chapitre précédent, on trouve Jésus, il est en prière avec son Père, et il prie justement « Abba, Père ». Maintenant, vous savez ce que « Abba » veut dire. Jésus prie dans le jardin de Gethsémani, « Abba, Père ». Il peut s'adresser à son Père. Tout cet évangile montre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il a été accusé de blasphème. C'est pour ça qu'il est sur la croix. C'est parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Premier verset de l'évangile, c'est « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». C'est le Fils de Dieu. Mais au moment où il cherche notamment ce regard approbateur de son Père, il ne le trouve pas. Ténèbres. Pour une fois, il ne peut pas dire Père, il ne peut pas l'appeler Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est pas, il n'est pas abandonné par n'importe qui, il est abandonné par son Père. Si quelqu'un que j'ai rencontré ce matin me dit « je ne veux plus te voir », bon, c'est désagréable, c'est dommage, mais je pense que je vais dormir ce soir. Mais si quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'ai aimé depuis longtemps, me dit « je ne veux plus te voir ». Là, c'est déchirant. Et voilà, c'est ce que Jésus a vécu. Quelqu'un, il connaissait le Père depuis toute éternité, étant lui-même le Fils de Dieu, le Dieu d'éternité. Et c'est ce qu'il entend de la part de son Père, « je ne veux plus te voir ». Et ça, c'est déchirant. Le centenier, il constate tout ça en partie. Hein, et c'est le premier à réagir face à la mort de Jésus-Christ, à émettre cette confession de foi. Certainement, sa confession de foi reste jeune, on va dire. Il ne connaît pas tout sur Christ. Il n'a pas encore vu la résurrection. Et il n'a pas encore lu tous les épîtres de Paul. Mais il a vu tout ça. Et c'est notamment ces heures de ténèbres, ce cri qui a tellement bouleversé, le Fils abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus, il ne reçoit pas de réponse. Jésus ne reçoit pas de réponse, mais nous connaissons la réponse. Pourquoi a-t-il été abandonné? Eh bien, c'est à cause de vous, c'est à cause de moi, c'est à cause de nous. Vous savez, nous passons une grande partie de notre vie à lutter contre les sentiments de culpabilité, des sentiments de honte, d'impuissance, et puis des sentiments de rejet, d'abandon. Des sentiments de culpabilité, des sentiments de honte, des sentiments de rejet. Mais vous voyez maintenant en quoi la croix offre vraiment une solution à ces problèmes qui nous tracassent toute notre vie. Les sentiments de culpabilité, Jésus dit « je suis venu prendre ta place, c'est moi qui va être le criminel, le coupable ». Les sentiments de honte, d'impuissance, Jésus dit « moi je vis la honte à ta place pour te donner la victoire ». Et puis les sentiments de rejet, qu'y a-t-il de pire que d'être rejeté par quelqu'un de sa famille, d'un parent? Et Jésus dit, voilà, j'ai été totalement rejeté, totalement abandonné pour t'accueillir, pour t'inclure dans ma famille, dans ma présence pour l'éternité. Vous voyez à quel point la croix offre une solution. Vous voyez à quel point la mort de Christ est différente de toutes les autres. À quel point il y a de quoi nous bouleverser quand nous contemplons cette mort. Oui, il y a toujours eu des martyrs, il y a toujours eu des situations tristes, il y a toujours eu des morts peut-être qu'il n'aurait pas dû y avoir à cause des injustices de l'homme. Mais celle-ci n'a rien à voir avec ces autres. Celle-ci a été opérée par Dieu pour nous sauver. Revenons un instant au centenier pour conclure. Après, nous allons pouvoir prendre la Sainte Cène ensemble. Ce centenier, il aurait pu, oui, être tellement habitué à ces supplices, ces crucifixions. Rome était cruelle, écartait immédiatement tout ennemi. Il aurait pu être habitué, blasé par son métier, par le nombre de crucifixions qu'il a dû voir, gérer dans sa vie. Et c'est un peu comme nous, peut-être, on peut être habitué, blasé. On a vu peut-être dans notre pays tant de crucifix et on n'y pense plus vraiment à la croix, au sens de la croix. Ou quelqu'un comme moi qui a grandi dans une famille chrétienne, on peut avoir tellement entendu des messages sur la croix que là encore on est un peu blasé, habitué à ce thème récurrent. Ou bien on a vu la Sainte Cène passer tant de fois. Mais comme le centenier, ce jour-là, c'était pas habituel, c'était pas standard, c'était autre chose, assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Alors que le Saint-Esprit vienne, le même esprit de Pentecôte, qu'il vienne et qu'il tourne nos regards vers Christ, pour que chacun ici puisse dire, assurément, c'est ça qu'il me faut, assurément, lui, Jésus, il est le Fils de Dieu, assurément, il peut changer ma vie, il a changé ma vie. Que Dieu vous bénisse.